Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Le président Jacques Chirac nous a quittés il y a déjà un an, le 26 septembre 2019. Et donc je voulais vous raconter aujourd'hui un tout petit morceau de sa très grande vie, et notamment son enfance. La jeunesse de Jacques Chirac. Donc je vais aller de ses 7 ans jusqu'à ses 22 ans, ce moment où il rentre à l'ENA et où il passe à la politique. Et je vais le faire bien sûr en m'appuyant sur la biographie qu'il a publiée chez Nil. Et du coup, pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité celui qui a contribué à l'écriture de cette biographie, son éditeur et ami Jean-Luc Barré. Voici donc cette histoire consacrée à la jeunesse et l'enfance de Jacques Chirac. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai choisi de commencer cette histoire au tout début de la guerre, au début du printemps 1940. Et le voilà d'ailleurs, tiens, le petit Jacques. Vous le voyez, le petit garçon qui tient sa maman par la main, dans cette rue du 5e arrondissement, eh ben c'est lui. Ça lui fait 7 ans maintenant. Ils rentrent du parc tous les deux, ils sont allés se promener. Il a de la chance, Jacques. Sa mère, Marie-Louise, s'occupe beaucoup de lui. Il est la prunelle de ses yeux. Et remarquez, il faut la comprendre, elle a perdu son premier enfant, une petite fille de 2 ans, il y a 17 ans, une pneumonie. Alors celui-là, elle le couvre.
J'ai été un enfant plutôt gâté, fils unique, oui, ce qui n'arrangeait rien. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'étais prioritaire.
Pour vous dire à quel point elle le couvre, quand il rentre à la maison, il a juste à s'asseoir pour goûter, les pieds sous la table. Elle a tout préparé, et quand il a droit à une sucette, c'est elle-même qui enlève le papier. Il est gâté, le petit Jacques. Avec son père, en revanche, Abel Chirac, c'est plus raide, hein. Il est moins affectueux, il est même un peu froid. Le père, à cette époque-là, il est directeur de la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord. Gros poste, en pleine guerre, pensez-vous. Abel Chirac, c'est un monsieur qui a fait carrière.
Mon père comme ma mère étaient enfants d'instituteurs, mes quatre grands-parents étaient instituteurs, ils étaient tous corréziens.
Au début, Abel, le père, était instituteur lui aussi. Et puis il a quitté l'école pour la banque, à Clermont-Ferrand. Et ensuite il est monté à Paris pour diriger une agence dans les beaux quartiers, avenue de la Grande Armée. Et c'est là qu'il a été repéré par l'industriel Potez, le fabricant d'avions, et recruté comme directeur. Et c'est comme ça qu'il est devenu un bourgeois parisien. Quand le père était instituteur, il était radical socialiste, normal. Depuis qu'il est patron, il a mis de l'eau dans son vin. Il est plus centriste, plus modéré. Mais il a gardé le côté raide et austère et plein de principes du ratsoc corrézien. Il a aussi gardé de ses débuts d'instituteur l'habitude de raconter des histoires à son petit garçon. Tous les soirs, après la soupe, il lui lit du Victor Hugo, du Jules Romain, des passages d'Alexandre Dumas. Ça compte, ça. Ça ouvre les horizons, les histoires. À part ça, Jacques, c'est un gamin qui a beaucoup d'énergie. Le week-end, ils vont dans leur maison de campagne à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, à 20 km de Paris. Le petit passe ses journées à jouer dans le jardin. Entre autres, au lancer de couteau contre un arbre. Un jour, le couteau rebondit et il le prend près de l'œil droit. La cicatrice restera. En juin 1940, après des mois de drôle de guerre, un face-à-face figé entre Français et Allemands, d'un coup, ça bouge.
10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de 3 pays neutres. La Belgique, au matin, rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes.
Et pour l'armée française, c'est la débâcle. Les Allemands sont en route vers Paris. Le vendredi 14 juin 1940, le petit Jacques est à l'Isle-Adam avec sa mère le téléphone sonne.
Allô ? Marie-Louise ? Marie-Louise, c'est Marcel. Les Allemands entrent dans Paris. Il faut partir, hein.
Mais mon mari est en voyage au Canada ?
Ça ne fait rien. Il faut partir. On passe vous prendre. N'emportez qu'une valise.
Le Marcel en question. C'est Marcel Bloch, qu'on appellera plus tard Marcel Dassault. C'est l'avionneur. C'est un ami de la famille. Et les voilà donc à 7, deux familles, serrées comme des sardines, dans une Renault Viva 4 qui fuit avec les autres.
En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance.
Au début, Marie-Louise et le petit Jacques se réfugient chez ses parents à elle, à Sainte-Féréole, en Corrèze. Et puis deux mois plus tard, quand le père Abel les rejoint, toute la famille va s'installer au Rayol, près de Toulon. Sacré changement de vie pour le petit Parisien. Le début d'une vie de grandes vacances. Les Chirac habitent une belle villa, la Casa Rosa. Mais pour aller à l'école, il y a une heure de marche. C'est la campagne. Le petit Jacques a maintenant 8 ans et il s'est fait un copain, Darius. Darius Soumino. Un Rital, le père est ouvrier agricole et communiste. Darius a 11 frères et sœurs, et ça le change, Jacques, lui qui est enfant unique. Tous les deux, ils sont comme cul et chemise. Quand il n'y a pas école, on ne les voit pas de la journée, vous entendez? Ils vont dans les collines à courir, chasser, pêcher, tout ça pieds nus. À table le soir, on ne parle que de la guerre, bien sûr. Et on ne fait pas qu'en parler. On la sent, et même un jour, on la voit. En novembre 1942, par exemple, le petit Jacques voit le nuage de fumée qui s'élève au-dessus du port de Toulon. La flotte française qui se saborne. Hitler est en train d'envahir la zone libre. Alors le soir à table, à la Casa Rosa, c'est l'unique sujet de conversation des adultes.
Nous en sommes rendus à saborder notre propre flotte. Quel gâchis, hein ? Il n'y a plus que De Gaulle.
De Gaulle. Charles De Gaulle. Ça fait plusieurs fois que le petit Jacques entend parler de lui.
La flotte de Toulon, cette flotte de la France, vient de disparaître. Au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors.
Et après ça va vite. Les Allemands prennent position dans le sud de la France. Ils ont tiré des fils téléphoniques d'un point à l'autre de la côte. Parfois enterrés, parfois pas. Et là, que font Darius et Jacques ? Ils s'en font des lassos de cow-boys, figurez-vous. Ils coupent les fils qui dépassent et ils s'en font des lassos. Le fils d'un gaulliste et le fils d'un communiste. À part ça, ils continuent de mener leur vie de grandes vacances. Jusqu'au débarquement, en juin 1944, en Normandie.
Ici, Lens.
Et puis, les Alliés débarquent en Provence, dans la nuit du 14 au 15 août 1944, tout près de l'endroit où vivent les Chirac. Et pour Chirac, le débarquement, il s'incarne dans un officier qui se présente à la villa.
Général Brosset, commandant de la première division de la France libre.
Les Chirac l'hébergent pour la nuit. Le général porte deux étoiles sur ses épaulettes. Mais le petit Jacques lui dit...
Bonjour mon lieutenant.
Ça le fait bien marrer, le général. Et du coup, il lui fait la conversation à table comme à un adulte. Le lendemain, en partant, il lui offre une tablette de chocolat. Jacques ne l'oubliera jamais. D'autant que son héros meurt quelques mois plus tard dans un accident de voiture en Alsace. Ça lui fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, en sa mémoire, il fabrique un panneau de rue, en bois, avenue du Général Brosset, et il va le clouer à l'entrée du chemin de Rayol. Et puis, après l'armistice, en août 1945, la famille Chirac rentre à Paris, ou plutôt à Saint-Cloud. Et là, changement de décor, fini les balades dans les collines. Jacques le vit assez mal d'ailleurs, il a 13 ans et la vie citadine, ça lui casse les pieds comme il dit. C'est pour ça que sa mère l'envoie chez les scouts, pour calmer ce surcroît d'énergie du bison égocentrique. Ah oui, c'est son surnom, le bison égocentrique. En classe au lycée Hoche, il fait tout le temps le pitre. Un jour, il est pris en train de lancer une boulette sur son prof de géo. Monsieur Chirac, le conseil de discipline a décidé de vous renvoyer de l'établissement. On le change donc de lycée. Et là, même cirque.
Bosser juste ce qu'il fallait pour passer d'une classe dans l'autre sans avoir à hypothéquer mes vacances.
En 1946, les Chirac s'installent dans le très huppé 8e arrondissement, rue Frédéric Bastiat. Jacques s'est un peu calmé, mais tout de même, en première au lycée Carnot, son professeur d'histoire écrit sur son bulletin « Trop bavard, trop distrait et trop nerveux pour réussir ». Un visionnaire, ce professeur. Cela dit, les parents sont inquiets. D'abord, Jacques a pris la sale manie d'aller se promener au parc Monceau pour conter fleurettes aux jeunes filles. Et à part ça, il se passionne pour la poésie. Dès qu'il a 3 sous d'argent de poche, il va s'acheter des livres de poésie ou des livres d'art. Et en cachette, car ça n'est pas le genre de chose que fait un garçon de 15 ans, en général. Voilà comment émerge Jacques Chirac, sous la forme d'un adolescent étrange et très original. Et il y a un pays qui fascine le jeune Chirac, qui a maintenant 16 ans. C'est l'Inde, et surtout l'Inde du Rajasthan, l'Inde des Maharajas. Alors un soir à table, il dit à sa mère « J'ai décidé d'apprendre le sanskrit. »«
Le sanskrit ? Mais pourquoi, mon chéri ? » ?»«
Bah pour lire les textes. »«
Bon, c'est une bonne idée, mon chéri, nous allons te trouver un professeur. »
Le professeur, M. Belanovic, est un élégant septuagénaire, un aristocrate russe qui a fui la révolution de Lénine et qui vit dans un tout petit studio au fond d'une cour du 14e arrondissement. Et après quelques semaines, il dit à son élève
« Écoute, Jacques, on va laisser tomber le sanskrit. Tu n'es pas très doué et ça ne sert à rien. Je vais plutôt t'apprendre le russe. Qu'en dis-tu ?»
Il est d'accord. Si c'est Monsieur Belanovic qui le propose, il est d'accord. Le vieux russe est devenu son mentor. Il est régulièrement invité à dîner chez les Chirac.
Monsieur Belanovic, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas occuper la chambre d'amis ?
Et voilà comment Monsieur Belanovic fait partie de la famille Chirac. Et il fait lire et traduire au jeune Jacques du Pouchkine, du Dostoïevski. À part ça, Chirac adolescent a des envies d'aventure. Alors son bac en poche, il annonce à ses parents
« Papa, maman, je suis invité chez des amis cet été, en Normandie. »
C'est un beau bar. La vérité, c'est qu'il veut prendre la mer.
Je suis donc parti, sans rien demander à personne. Et à Rouen, à l'époque, on embauchait ce qu'on appelait des pilotins, des inscrits maritimes, plus exactement. Et de là, inscrit maritime, je suis parti sur un bateau, sur un cargo, comme pilotin.
Et c'est comme ça que le jeune Jacques embarque sur un charbonnier de 5000 tonnes, le capitaine Saint-Martin, cap sur Alger, puis sur Melilla, au Maroc. Sauf qu'il a le mal de mer. Alors le Bosco, le maître d'équipage, lui tend 3 boîtes de sardines à l'huile.
Tiens, bouffe-moi ça. Oh la vache, tu vas me faire dégueuler ? Bouffe, je te dis, et finis-moi ces sardines.
Et à la 3e boîte, adieu le mal de mer. Et le voilà qui débarque à Alger. Et là, le Bosco lui demande.
T'es puceau, Jacques ? Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires.
Ok, t'es puceau.
On va arranger ça, tu vas voir.
le soir même, le Bosco emmène Jacques chez les petites femmes de la Casbah. Il y passe toute la nuit, toute la nuit. Dans ses mémoires, il écrit « Quand au matin je suis redescendu vers le port, dans l'odeur du grésil sur les trottoirs, d'anisette et de produits coloniaux, je n'étais plus le même homme. » Et il reprend la mer.
Mon ambition à l'époque, c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour capitaine au long cours. Bon, jusqu'au jour où, au moment où on arrivait au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père, c'était la fin des vacances.
Le père l'envoie au lycée Louis le Grand, en prépa mathématiques. Entre nous, les cours ont déjà commencé depuis un mois. Le père a dans l'idée de lui faire faire polytechnique, d'en faire un ingénieur ou un industriel. Mais Jacques les mate. Ça lui casse les bonbons, comme il dit.
Papa, je ne veux pas faire polytechnique. Je veux faire Sciences Po. On m'a dit que c'était très intéressant.
Le père est un peu déçu, mais bon, va pour Sciences Po, après tout. Sciences Po, ça mène à tout. En octobre 1951, le jeune Jacques Chirac, 19 ans, fait donc son entrée à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement. Il se passionne pour l'histoire, pour la géographie et pour la sociologie. Sciences Po fonctionne sur le principe des exposés. Le professeur d'histoire demande des volontaires. Et là, une jeune femme lève timidement la main. Et c'est là que le jeune Chirac la remarque. Bernadette Chaudron de Courcelles. Il la trouve épatante. Alors un jour, à la bibliothèque, il va la voir.
Mademoiselle, j'ai l'intention de constituer un groupe de travail qui se réunirait chez moi. Nous serions quatre. Voulez-vous en faire partie? Eh bien, mais certainement. Nous verrons cela.
Il a en lui une force, un enthousiasme qui sont peu communs et qui, quand il avait 20 ans, se percevait bien sûr déjà. Il était assez unique dans son genre.
Au début, c'est une collaboration intellectuelle qui s'instaure entre les deux. Il lui fait faire des fiches de lecture. Pour lui. Elle lit des livres et elle lui fait des résumés. Et à part ça, il lui écrit des petits mots. Et il la traîne parfois dans les cafés où il a ses habitudes, comme la Romerie Martiniquaise, à Mabilon. Et puis voilà. Un jour, le professeur de géographie organise une visite du barrage de Donzère-Mondragon dans le Vaucluse et toute la promo découvre que Jacques et Bernadette se tiennent par la main. Mais bon, ils n'ont que 20 ans et ils n'en sont pas à se passer la bague au doigt. Les autres filles l'intéressent aussi.
Je crois que j'ai une vie sentimentale raisonnable, normale et raisonnable.
Et en politique, d'ailleurs, c'est pareil. Il a du mal à se fixer. Mais il est sûr d'une chose, il déteste l'extrême droite. Mais à part ça, il y a un an, il flirtait encore avec les communistes. Ça n'a pas duré. Il est allé à une ou deux réunions de cellules, et puis il a coupé les ponts avec ses camarades. En ce moment, à Sciences Po, il est assez séduit par un certain Michel. Michel Rocard. Un gars qui cause comme un moulin à parole dans les couloirs. La cigarette au bec.
« Dis donc, Jacques, tu m'accompagnerais pas à une réunion des jeunes socialistes ce soir ?»«
Oh, tu sais, moi, la discipline partisane, ça me botte pas trop. »«
Viens en téléspectateur, ça t'intéressera, tu verras. »
Jacques Chirac m'a honoré de sa présence à plusieurs reprises. Lui était sans appartenance, mais avec une grande gueule. Émettait des aphorismes sur tout. Je lui ai un jour proposé, à sa troisième ou quatrième présence, de s'inscrire aux étudiants socialistes et CFIO, et en effet, il m'a répondu « Mais vous êtes bien trop à droite pour moi. »
Pour l'instant, à 20 ans, Chirac est donc un sans-famille politique. En revanche, il est toujours taraudé par les voyages, par l'aventure. Alors, à l'été 1952, il part pour le Cap Nord, en Norvège, avec un copain de promo. Et l'été d'après, l'été 53, il veut aller en Amérique. Il s'est inscrit à la session estivale de la Business School de Harvard, à Boston. Évidemment, il n'a pas demandé l'autorisation à ses parents.
Tu pars en Amérique, comme ça, sur un coup de tête.
Ça n'est pas un coup de tête, papa. Tout est arrangé. Je pars. Et avec quel argent ?
Nous avons obtenu une bourse. Ça couvrira les frais du voyage et l'inscription à Harvard.
Et tu logeras où ?
Oh, on verra bien là-bas.
Il y va en bateau, avec deux copains et une copine, sur un vieux rafio de la Greek Line, en classe éco, bien sûr, au-dessus de la salle des machines. À peine arrivé à Boston, pour se faire 3 sous, il trouve un job de serveur dans un restaurant de la chaîne Howard Johnson. Il y sert des ice creams et des burgers de 6h du soir à 2h du matin. C'est là qu'il découvre les films de Marlon Brando et la musique de Sidney Bechet. Il fait aussi passer une annonce pour donner des cours de latin. Et il tombe red dingue amoureux d'une de ses élèves. Une brunette, Florence Erlihi, issue d'une riche famille de Caroline du Sud. Florence a une voiture, une Cadillac blanche. Alors ils vont pique-niquer le long de Charles River. Elle l'appelle « Honey Child », l'enfant du miel. Il parle de se fiancer. Mais lui, il a toujours cette trouille de s'engager. Et puis, il n'est pas venu en Amérique pour se fiancer, il est venu pour voir du pays. Alors, il part en autostop pour San Francisco. Et de là, il se fait embaucher comme chauffeur particulier et il revient sur la côte Est, à la Nouvelle-Orléans. Et puis, il retourne à Boston et il retrouve la ravissante Florence.
Darling. Il faut qu'on parle. Les fiançailles, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Pour vous dire la vérité, ni ses parents à lui, ni ses parents à elle n'étaient emballés par le projet. Et puis en octobre, de toute façon, il faut rentrer. Il faut retrouver Sciences Po. Et Bernadette, avec laquelle il se fiance dès son retour. Le reste, la suite, c'est une autre histoire. L'ENA, le mariage avec Bernadette, le service militaire en Algérie, où il découvrira la passion du commandement et, à son retour, l'apprentissage du pouvoir. J'ai tiré ce premier récit de ses mémoires, parues en 2009 aux éditions Nil, et mémoire qu'il a coécrite avec Jean-Luc Barré, car si Mitterrand était homme à écrire lui-même ses mémoires, ça n'était pas, n'est-ce pas Jean-Luc Barré, du tout le genre de Chirac.
Voilà, c'était des heures d'entretien, et puis, oui, j'écrivais, enfin, en réalité, il n'avait pas très envie d'écrire, hein, c'était pas du tout, mais je pense qu'il aurait pu le faire, mais il avait envie de s'entretenir avec un historien, ça l'intéressait de remonter un peu le cours du temps.
Mais écrire lui-même, comme l'avait fait Mitterrand, qui s'était enfermé pendant des mois, qui avait pris presque la plume d'oie, hein, et l'encrier pour écrire lui-même, longuement, dans la souffrance, ses mémoires... C'était pas trop son truc, à Chirac.
Il y avait un vrai défi dans l'idée de remonter le temps et même d'écrire des mémoires, parce que c'est un homme qui vit dans l'immédiat et dans le long terme aussi. Il est capable de s'intéresser aux vieilles civilisations, mais il aime bien l'instant. Et puis ça lui répugnait un petit peu de devoir faire cet exercice-là, une espèce d'autocritique, de faire cet effort de mémoire. Il n'en avait pas envie en réalité. Et je pense que le fait qu'on travaille ensemble l'a incité et en fait il y a pris beaucoup de plaisir.
Ah, il y a ce qui me permet d'ailleurs tout de suite de parler d'un passage du récit que je viens de faire. C'est ce moment où on découvre que Bernadette, au début, il l'utilise comme assistante. Il lui demande de faire des fiches de lecture.
Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses au fond qui se passent dans cette période que vous venez de raconter, qui annonce la suite. Au fond, elle a toujours été un peu à son service, même si elle se rebellait naturellement. Mais tout de suite, la répartition des rôles est faite. Au fond, elle est là pour lui donner un coup de main, pour l'aider, pour travailler pour lui. Et lui, ce qui est merveilleux, c'est qu'il trouve ça totalement naturel.
Et ça a duré. Elle lui a fait des fiches toute sa vie.
Elle l'a, vous savez, quand elle est devenue élue, elle a été élue en Corrèze, etc. C'était pour l'aider chaque fois. Je pense qu'elle a dit un jour, nous avons fait un mariage d'ambition, un mariage d'amour et d'ambition. Et je pense qu'elle l'a beaucoup poussé finalement à faire de la politique aussi. Et elle l'a secondé. Elle faisait toutes ses campagnes électorales. Elle était très, très présente.
Ah, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est qu'il n'y a pas de trace dans ses 22 premières années de la Corrèze. Et moi, toute ma vie, on m'a dit, Chirac, ce sont des racines corréziennes. Alors, je l'ai raconté, les grands-parents sont corréziens, les parents sont corréziens. Mais lui, il est parisien, et la petite trace, l'expérience de la campagne qu'il a, c'est à Toulon, au Rayol, la Corrèze reviendra plus tard.
Attendez, je crois que la Corrèze, elle compte un peu à ce moment-là, parce qu'il passe ses vacances en Corrèze. La famille a une maison à Sainte-Féréole, qui est dans la région de Brive, et il passe beaucoup de ses vacances-là. Les premiers moments d'évasion de Chirac, c'est vraiment en Corrèze, en réalité. Bien sûr, il vit à Paris, vous avez parfaitement raison, mais c'est les moments les plus grisants pour lui, c'est les vacances en Corrèze. Il y est, il retrouve vraiment ses racines, et donc j'ai vu cette maison un jour, il m'a fait visiter Sainte-Féréole, où sont enterrés ses parents, d'ailleurs. Donc c'est vraiment un lieu d'ancrage, il y a toujours cette maison, et c'est un des plus beaux souvenir de sa vie, parce que c'est vraiment un moment de grande liberté, avant même le Rayol d'ailleurs.
Mais la Corrèze, ce sera une reconquête d'adulte, parce qu'en vérité, il est parisien.
Bien sûr, il est essentiellement parisien, mais quand il choisit de se présenter en Corrèze et non pas à Paris, contrairement à ce que Pompidou lui demande, c'est parce que l'ancrage politique est tout de même en Corrèze. C'est-à-dire que ses grands-parents instituteurs sont des Corréziens, le grand-parent le plus emblématique s'appelait Louis Chirac, il dirigeait une école à Brive, Jacques Chirac l'a un petit peu connu, c'était un républicain laïque, enfin, ce qui était Chirac, au fond, il a été formé par cette famille complètement, et donc l'ancrage politique a vraiment la Corrèze beaucoup plus que Paris.
Alors parlons du tout début, parlons de ses parents. Le père, bon, a une stature finalement assez classique pour l'époque, c'était un homme un peu froid, un peu rigide, comme l'étaient les pères dans ces années-là. La mère, en revanche, qui n'a qu'un seul enfant, lui, parce qu'elle a perdu sa sœur aînée qui est morte d'une pneumonie, Chirac ne l'a jamais connue d'ailleurs, sa sœur aînée. Elle est morte.
C'était Jacqueline d'ailleurs.
Elle est morte 10 ans avant sa naissance. À votre avis, comment est-ce qu'elle a pesé sur Jacques Chirac, cette mère qui le couvait, qui lui préparait à goûter, qui lui enlevait je l'ai raconté tout à l'heure, le papier des sucettes qu'elle lui donnait, elle lui enlevait le papier, il pouvait même pas l'enlever lui-même.
Moi, je crois qu'elle a fait de lui un enfant gâté. C'est clair. Je veux dire, le jeune Jacques est assez terrorisé par son père, qui est un père qui l'impressionne. D'abord, il a la même taille, il est même plus grand que n'est Jacques Chirac aujourd'hui. Donc, il est assez impressionné par ce personnage qui est en même temps très secret. C'est-à-dire un point commun entre Jacques Chirac et son père, le secret. Par exemple, Jacques Chirac n'a vraiment jamais su ce qui s'était passé durant la Grande Guerre. Son père ne racontait pas cette histoire-là. Donc, il y avait avec la mère, au contraire, une relation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre. Elle l'a éduqué dans la religion chrétienne, catholique, ce qui est important, puisque de l'autre côté, on était plutôt radical, agnostique, voire athée, très ouvertement. Et je crois qu'elle a fait de lui, l'enfant qui se croit tout permis, l'enfant gâté, l'enfant libre. Il est naturellement rebelle. Et sa mère, au fond, jamais ne cherche à le réprimer vraiment. L'autorité est de l'autre côté. Il y a la liberté, l'autorité. Vous savez, c'est les deux facettes permanentes de sa vie, finalement, quand on regarde bien les choses. C'est un homme qui est un peu terrorisé par l'autorité, qui rentre dans l'ordre assez facilement, mais en même temps qui est dans la transgression, dans la liberté. Et sa mère favorise, au fond, ce côté assez rebelle.
Alors, la guerre, c'est assez paradoxal parce que c'est un président qui a connu la guerre, ce qui n'est pas banal, et je ne sais pas si j'y ai pensé en voyant Chirac au pouvoir finalement qu'il avait connu la guerre, mais il l'a quand même connu de très loin et il l'a vécu comme 4 ans de grandes vacances, même si il y a cet épisode à Toulon de la flotte qui se saborde, auquel il assiste de loin depuis la propriété dans laquelle ils sont réfugiés. Mais enfin, grosso modo, c'est quelqu'un pour qui la guerre a été présente, mais distante.
Oui, on peut pas dire qu'il a une expérience de la guerre. Moi, je crois que la première expérience, c'est l'Algérie. Mais là, tout de même, ce qui compte peut-être le plus, c'est la manière dont cette guerre s'incarne en une figure assez héroïque, qui est celle du général Brossé, dont il m'a beaucoup parlé. C'était un personnage qui l'avait beaucoup marqué. Et il restait un petit peu cette figure.
Il a vu 24 heures.
Oui, mais ça l'avait marqué. C'était le héros. C'était un peu le héros de cette jeunesse. Et puis, c'est vrai que c'est les grandes vacances. Et puis, c'est cette amitié avec ce jeune fils de communiste. Voilà, mais je crois qu'effectivement, il y a aussi l'image quand même de Toulon. C'est-à-dire, subitement, ce désastre qui s'incarne un peu sous ses yeux, et ça, il est profondément marqué par ça. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il a été très marqué par la guerre de 40, je crois pas.
Alors, en 45, retour en région parisienne, ils habitent à Saint-Cloud, et alors moi, j'ai découvert ce surnom dont je n'ai jamais entendu parler, que je découvre en écrivant cette histoire, le bison égocentrique.
Vous savez qu'un jour, je lui ai demandé... Parce qu'un jour, il me tend une feuille de papier et il me dit « Voilà comment on me surnommait à... » quand j'étais chez les scouts. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on vous surveille? Il m'a dit, je ne sais pas. Donc je suis resté un peu sur le mystère. C'est assez faux d'ailleurs. Bison, je vois très bien pourquoi. Égocentrique, pas du tout. Enfin, le côté bison, oui, le côté fonceur, le côté dynamique, énergique, à qui rien ne résiste. Oui, ça c'est tout à fait lui. Égocentrique, je ne sais pas. C'est peut-être une allusion finalement à ce côté assez solitaire, assez apparemment tourné vers lui-même, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est un homme, au fond, curieusement, qui se lie facilement avec tout le monde et en réalité avec personne. Mmh. Donc il y a ça chez Chirac, cette dimension-là qu'on voit d'ailleurs très nettement à ce moment-là. Au fond, c'est un solitaire qui a quelques camarades tout au plus.
Bon, parcours scolaire très moyen. Alors là, évidemment, c'est l'épisode que retiendront tous les cancres qui nous écoutent en disant, ben voilà, hein, on peut avoir, c'est le mec qui a 10 sur 20, quoi. Ça passe, mais c'est juste, quoi.
Oui, c'est ça. Il attend le dernier moment pour travailler. Non, mais en fait, c'est un vagabond, quoi. Il va se forger une culture tout seul. Chirac, en fait, c'est un autodidacte. Ça peut paraître très surprenant, ce que je vais dire. Mais il ne doit pas grand chose à une culture apprise venant de l'école, etc. C'est lui-même qui s'est forgé cette culture. Et, alors d'où vient cette rébellion chez lui? Je ne sais pas, peut-être de sa condition, encore une fois, d'enfant gâté, mais il se méfie au fond de cet enseignement qu'il a horreur de se barber à l'école, il se plaît pas à l'école, il aime marcher pieds nus, au fond, sa première école, ça a été le rayol, quoi. Ça a été ce moment-là de grande évasion, et au fond, très vite, très tôt, sa véritable culture, c'est la poésie, mais alors il en cachette, et ça va être effectivement les arts premiers, en tout cas, le musée Guimet en cachette.
Le sanskrit. Il veut apprendre le sanskrit à 16 ans.
Mais ça va plus loin que ça. Alors, il y a un côté très provocateur chez Chirac, il a été toujours extrêmement provocateur. Et il l'est déjà, figurez-vous qu'à ce moment-là, il dit à ses parents qu'il veut se convertir à l'hindouisme. C'est pas seulement d'apprendre le sanskrit. Évidemment, ça affole complètement les parents, mais c'est de la provocation, simplement. Mais il y a quand même cette découverte qu'il fait, lui qui s'inscrit, encore une fois, un peu à contre-courant de la culture qu'on veut lui apprendre, la découverte de l'Inde, la découverte de la Chine, de cette culture-là, au musée Guimet, où il va, je le rappelle, de son propre chef, hein, personne ne lui demande d'y aller, il s'arrête simplement, l'a éveillé à une forme de culture personnelle qui est peut-être fondée sur l'idée d'aller à contre-courant, encore une fois, de ce qu'on lui apprend, mais enfin, qui passe par le sanskrit. Il a envie d'apprendre le sanskrit, c'est comme ça, mais
Et il apprendra le russe finalement.
Oui, mais ça compte parle beaucoup russe. Si on veut comprendre Chirac. C'est-à-dire que voilà un homme qui parle le russe.
Oui.
Il a appris le russe. On parle le russe. Il s'entretenait en russe.
Je veux dire, il parlait le russe avec Poutine.
Il parlait le russe. Alors,
je ne sais pas si on a jamais dit ça.
Si. Il parlait. Enfin, il était capable d'avoir une conversation
jusqu'à
un certain point.
Oui,
bien sûr. Non, pas dans les détails. Mais il a quand même traduit Eugène Onéguine de Pouchkin, et c'est d'autant plus vrai qu'il m'a montré le manuscrit, et ce manuscrit il avait essayé de le faire publier en France juste quelques années après personne n'en avait voulu, et il me dit le jour où je suis devenu président, quand les éditeurs ont appris que j'avais traduit Pouchkin, ils ont voulu le publier, j'ai refusé naturellement.
On en vient à cet épisode qui le rend, moi je trouve, extrêmement sympathique, la totalité de la séquence. Il a 18 ans, il est mineur, évidemment dans ces années-là. Il dit à ses parents, je pars en vacances en Normandie. Il monte sur un cargo, il se retrouve à Alger, et il se fait dépuceler par des prostituées de la Casbah d'Alger. Moi, je trouve la séquence pour quelqu'un qui ensuite deviendra l'homme politique un peu raide que nous avons vu. Voilà, ça le rend sympa.
Oui, enfin, raide en public, je veux dire, l'homme privé est assez, correspond bien à l'image du fugueur. Au fond, c'est un homme qui a beaucoup fugué dans sa vie, même si j'ai noté qu'il avait une vie sentimentale raisonnable.
Oui, quelque chose que vous avez découvert grâce à nous.
Oui, j'ai découvert, mais
c'est
bon,
lui
voilà,
qui le dit. Hein.
Après tout, on découvre à tout moment. Et puis Chirac est un personnage surprenant. Non, au fond, c'est inscrit un peu dans la logique de cette vie, de cette adolescence. Il tient pas en place, il a envie de partir, il a envie de découvrir le monde. Il ne sait surtout pas ce qu'il a envie de faire. Il n'a aucune idée de la carrière qu'il veut mener. Enfin, sinon de partir.
Mais les maths, ça lui casse les bonbons.
Ah non, mais il n'aime pas ça. D'abord, il n'aime pas les études. Et puis, il n'a pas envie d'être enfermé dans une carrière préétablie. Au fond, il n'a qu'une envie, c'est de s'évader, c'est d'éprouver la vie, c'est de faire des rencontres, c'est de s'amuser. Voilà, c'est de rencontrer des filles. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a ce moment-là, ce dépucelage dont il était très fier, je dois vous dire. Il était très content quand il
le racontait. Oui, mais parce qu'il y avait un côté français,
oui,
quoi.
Oui, puis on casse un peu les codes. codes.
Oui, voilà, c'est ça, on casse les codes. Ne me traitez pas de bourgeois, j'ai été dépucelé dans la casbah d'Alger.
Il n'était pas un bourgeois, il n'aimait pas les bourgeois, et tout ce qui était de l'ordre de la bourgeoisie l'agaçait. Mmh. Et donc, il y avait une part de défi dans, bon, c'est assez banal, au fond, d'aller à Alger, de passer par la casbah. Mais enfin, dans son cas à lui, c'est une étape initiatique assez intéressante.
Mmh. Alors, sur le plan politique, dans ces années-là, ce qu'on note, c'est qu'il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale, ni vraiment d'intérêt, d'attrait. Moi, j'aime bien la conversation qu'il a avec Michel Rocard, qui lui dit, viens au Parti Socialiste ce soir, il y a une réunion, où il lui dit, moi, tu sais, les partis politiques, je cherche la phrase, la discipline partisane, ça ne m'intéresse pas trop.
Non, alors d'abord, moi je pense qu'il est né à gauche, honnêtement. Je pense qu'on peut dire que Chirac est né à gauche de par ce qu'il a profondément marqué, donc c'est la Corrèze, le radicalisme, les instituteurs, même si son père était... Mais enfin, son père était radical-socialiste en réalité, donc il n'est pas à droite. À un certain moment, il a dit qu'il avait été au RPF, ça n'est pas vrai. En réalité, un jour, Bernadette Chirac a prétendu devant moi qu'il avait même la carte du Parti communiste. Alors j'en ai parlé à Chirac, il m'a dit c'est une blague. Mais enfin, il lui aurait montré la carte.
À quelques réunions de cellules.
Voilà, il lui aurait montré la carte. Ce qui est vrai, c'est que le provocateur Chirac aime bien l'idée d'aller distribuer l'humanité sur la place Saint-Germain-des-Prés. Ça correspond un petit peu à ses idées tout de même. Il n'est pas communiste du tout, mais la Russie est là quand même. Il y a cette espèce de fascination. Il est surtout un pacifiste. C'est d'ailleurs pour cela qu'il signera l'appel de Stockholm contre l'emploi de la bombe atomique. Et sa grande admiration de jeunesse, c'est Gandhi. Il se réfère à Gandhi, il m'a dit « j'ai pleuré le jour de l'assassinat de Gandhi ». Et d'ailleurs, ce pacifisme, on le retrouve dans son action politique.
Quand il ne va pas, il n'engage pas la guerre d'Irak, quand il ne met pas la France dans cette aventure, c'est Gandhi, vous pensez?
Oui, c'est un peu l'adepte de Gandhi. Au fond, Chirac n'a jamais aimé la guerre. Il l'a faite, naturellement, mais toutes les occasions de faire la paix, il l'a faite en tant que soldat, il voulait être soldat lui-même, d'ailleurs, mais au fond, il n'aime pas la guerre, enfin, en tout cas, pas la guerre injuste, pas la guerre inutile, et profondément, c'est d'abord un homme de paix.
Alors ce voyage aux États-Unis, moi j'ai le sentiment qu'à ce moment-là tout peut basculer. Si aux États-Unis il tombe vraiment amoureux de cette Florence, s'il se fiance vraiment avec elle et qu'il envoie bouler ses parents qui évidemment veulent qu'il rentre à Paris, il n'y a pas de Chirac président. Qu'est-ce qui le ramène en France? Est-ce que c'est quand même le poids de cette famille à laquelle et de ce père auquel il est censé obéir?
Moi, je crois que ce qui le ramène en France, c'est ce qui le ramène aussi à Dunkerque après la fugue en Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a chez Chirac deux personnages qui cohabitent et qui se confrontent en permanence. Il y a un personnage d'un rebelle, un insoumis, et un homme qui a le sens de l'ordre, qui a le sens de l'autorité. Il est un peu coincé finalement, parce que il est indécis, il ne choisit pas. Chirac n'est pas un homme qui choisit facilement. Et il concilie beaucoup de choses, il concilie les contraires, etc. Donc il y a chez lui ces deux personnages en permanence. Il y a l'homme d'ordre, vous parliez tout à l'heure de Raider, ça c'est l'homme d'ordre. Et puis il y a, d'ailleurs c'est très frappant de voir même dans son langage. En privé, il avait un langage extrêmement vert, un peu à la Michel Audiard, il pouvait parler de manière très métallique,
oui,
très technique en privé.
À la télévision. Le spectacle qu'il nous a donné a toujours été celui-là.
Alors, je crois qu'à la fin, il est tellement prisonnier de ses contradictions que je ne pense pas qu'il serait resté aux États-Unis. Je crois qu'au fond, il fallait rentrer d'abord parce qu'il y avait ses parents, parce qu'il fallait terminer l'ENA, un peu à contre-cœur, mais il a toujours fini par rentrer.
Mais alors, on a toujours dit que quand on voulait accéder aux plus hautes fonctions de l'État, il fallait en rêver depuis tout petit. Moi, je vois rien dans ce récit qui va de ses 7 ans à ses 22 ans. Je ne vois aucun moment où il dit, où il pense, où il envisage qu'il pourra être président de la République.
Non. Au fond, la politique va être une aventure parmi d'autres. Une aventure sérieuse, bien sûr. Il va pas être soldat. Il dit quelque part dans ses mémoires d'ailleurs que la politique c'est une façon de faire la guerre, mais autrement. Enfin, il y a un combat. En tout cas, il y a un combat. Il y a une énergie à déployer, mais il n'y pense pas en effet. Il n'est pas préparé à ça. Au fond, Chirac, vous savez, souvent il y a eu beaucoup de mentors autour de lui. Bon, d'abord il y a eu Bernadette, il y a eu Pierre Juillet, il y a Marie-France Garraud, il y a eu Pompidou. Ce destin a été construit un peu par les autres. Mais il était bon dans l'emploi finalement. Il a bien appris les choses et puis il a su déployer encore une fois cette fougue, cette énergie, ces talents qu'il avait. Mais s'il a donné parfois l'impression d'être mal à l'aise dans sa fonction, de ne pas être toujours accompli, c'est que je pense qu'il y a une part de lui-même qui ne s'est jamais accomplie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.